les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En pleine ville, dans un jardin tout de même, des lièvres et des chevreuils en toute liberté, la ville est une capitale. Elle était, cette année-là, nous étions à la fin des années 90, la capitale européenne de la culture, Stockholm. Stockholm, la beauté sur l'eau. Pour l'émission « L'usage du monde » de Marie-Hélène Freissé, Patrick Casal proposait ce reportage, réalisé par Marie Grou, « Stockholm, une balise pour l'Europe ». Première diffusion sur France Culture, le 4 octobre 1998.
Quand on parle de lumière du Nord et la lumière en Suède, à Stockholm, il y a une lumière de Saint-Jean. Et c'est donc 2 ou 3 jours où le soleil ne se couche pas. Donc, pas de jour parce que le ciel est d'un vert pâle. Il n'y a pas d'ombre, mais il y a toujours le soleil. Et les oiseaux ne sont pas toujours décidés s'ils doivent se prononcer ou pas. C'est là où les sagas ont surgi, c'est là où on pense que la brume, ce sont des fées qui dansent. Et pendant la fin du siècle dernier, il y avait, et surtout le romantisme, on voulait voir du panthéisme partout, tout était plus ou moins peuplé. Et par exemple, le Lunek, qui était assez dangereux pour de jeunes filles, il chantait dans les eaux, dans les ruisseaux, etc. Mais parfois, il sautait aussi. Ça, c'était légèrement dangereux. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de peintures de ça. Mm-hmm. Mais ce qui est peut-être la peinture la plus lumière du Nord que je connaisse, c'est Zorn danse pendant la nuit de la Saint-Jean. Et là, il a réussi à rendre justement cette lumière-là. Il y a donc Stockholm qui se reflète dans les eaux et partout, il y a des petites lumières pointues qui sont uniquement la couleur qu'il a fait sortir directement du tube, comme ça. Et je crois que l'idée de pouvoir sortir dans la nature, entendre des oiseaux, voir beaucoup de fleurs, ça prend très grande place dans la vie des écrivains, musiciens. Ça vous donne un sentiment de bonheur, de paix, de tout ça.
Les dames rameuses hantent toujours les quais de Strömkajen. Leurs poignes légendaires emportaient les fils de vikings au large de Stockholm, vers les 24 000 îles de l'archipel, en se jouant des récifs, en épousant les courants. Un vapeur avouant son âge fait aujourd'hui l'affaire, pris d'assaut par une escouade d'industriels et banquiers, sportifs et cravatés, ravis de débuter leur week-end. Sur ce pont arrière, au son de l'accordéon, un verre de vin blanc à la main, le front déjà rougi par le soleil retrouvé. Cette lumière sur Stockholm, je la savoure, vrillée au bastingage, née au vent. Elle joue sur les façades ocre et blanche de Gamla Stan, la vieille ville, se fait métallique sous une passerelle, se dore aux coupoles, se voile et cirise sous les arches d'un pont. Je sais qu'en 2 heures, ce long boulevard, ouvert sur la Baltique, peut m'offrir les images les plus insolites. Un trois-mâts de rêve, cinglant toute voile dehors, les falaises de verre du géant suédois du portable, offertes au couchant, ou sous les créneaux d'un château fort, la geste empruntée d'ancêtres s'exerçant au lasso sur les bois d'un cerf empaillé. Birgitta, frêle mais décidée, a voulu me servir de guide. Je l'ai pourtant découragée, en lui avouant qu'une ville comme Stockholm, sacrée capitale culturelle, m'intimidait comme un communiant, et qu'il me fallait d'abord m'y perdre et lui trouver tous les défauts avant de l'adopter. On a convenu qu'une arrivée par la mer était comme une fuite, et qu'il serait toujours temps de refuser de fouler le sol du pied. Vaine promesse, Stockholm, baptisé la beauté sur l'eau, referme déjà ses pièges.
Birgitta, combien de bacs comme ça relient les différentes îles de Stockholm ?
Dans cette bac ici, c'est un peu spécial parce qu'elle va de cette île où nous avons le parc d'attractions et aussi beaucoup d'autres musées et l'écluse dans la vieille ville. La ville, elle est située entre la mer Baltique et le lac de Mälaren. Et ce lac de Mälaren est plus élevé. Alors pour arriver à passer entre les deux, il faut prendre une écluse. Il y en a deux à Stockholm. Une qui est située entre la vieille ville et l'île de Södermalm, qui est l'île du Sud. Et puis une autre sur l'autre côté de l'île du Sud.
Et la dénivellation entre le lac et la Baltique est...
Ça varie un peu, mais normalement c'est environ 70 cm, un peu plus en printemps quand la neige a fondu.
Est-ce que la ville donc est un moment de l'année saisi par les glaces ?
En hiver souvent, oui. Ça dépend d'une année à l'autre, mais souvent en janvier, février, c'est gelé. Et c'est fréquent, s'il fait froid comme ça, on peut souvent se promener autour des îles sur la glace. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment faire du patin dans l'archipel. Ils font des tours d'une journée, ils amènent à manger, à boire. On peut faire ça seul ou en groupe.
Mais la Baltique, à aucun moment, n'est saisie par les glaces, elle-ci.
Dans cette partie, si, parce qu'on a ce mélange entre eau de mer et l'eau douce qui vient du lac. Dans cette partie que nous avons ici, c'est l'île de Södermalm, qui est la plus grande des 14. Nous voyons là-bas un bâtiment rose avec comme un mât sur le toit. Et c'est le lieu où on avait autrefois le lieu de supplice au 16e et au 17e siècle. C'était un lieu de supplice qui était permanent et c'était même marqué sur les cartes pour marins. Alors quand ils entraient à Stockholm, ils utilisaient cet lieu de supplice pour se naviguer. À gauche, nous allons aussi voir là-bas, c'est l'église de Katarina, l'église jaune, qui a une longue histoire. C'est une église qu'on a construite pour la première fois déjà au milieu du XVIIe siècle. Ensuite, il y avait un incendie en 1723. L'église a été détruite et reconstruite. Et encore, une fois, il y avait un incendie, c'était en 1990. Alors, on a reconstruit l'église avec les méthodes... du XVIIe siècle, aussi loin que c'était possible, et aussi avec les matériaux de l'époque.
Un docte géographe me l'avait confié avant mon départ. La Baltique et ses eaux peu salées, refuse d'héberger le taré, ce mollusque gourmet, avide du chêne, des coques des bateaux. Des barques et navires coulés, parfois vieux de plusieurs milliers d'années, peuvent ainsi y dormir en paix et rester intacts. La chasse aux épaves a livré son joyau à l'est de la grande île de Djurgården. On lui a même construit un sarcophage sur mesure, avec toit de cuivre et panneaux de bois goudronnés. Les mâts sortent du chapiteau de cet étrange musée où chaque Suédois se doit de venir en pèlerinage familial, une fois l'an, avec le petit dernier, pour lui inculquer l'amour de la mer et la soif de naviguer. En janvier 1625, leur roi Gustave II Adolphe, le Lion du Nord, avait eu le tort de signer à Stockholm le contrat de construction du Vasa, devenu le vaisseau fantôme.
Un vaisseau du XVIIe siècle, de l'époque quand la Suède était encore une grande puissance. La Finlande faisait partie de la Suède, alors Stockholm c'était vraiment au centre du royaume. Et ce vaisseau a été construit pour une guerre contre la Pologne où le cousin du roi était au pouvoir. Et le vaisseau il a coulé pendant son premier voyage, un voyage qui durait à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Il a coulé dans le port de Stockholm et il était à une profondeur de plus de 30 mètres dans la vase. On a tout de suite essayé de récupérer les canons qui avaient une grande valeur. On a pu le faire dans les années 60 du 17e Et ensuite, on a plus ou moins oublié le vaisseau. Et il a été retrouvé beaucoup plus tard, en 1956, par une personne qui avait cherché pendant 3 ans. Alors, il a trouvé où était le vaisseau, puis on avait décidé de le renflouer. Et il a été sorti de l'eau après 333 ans. On a commencé à construire le musée. Il y avait de l'eau à l'intérieur parce que c'était une ancienne dock. Alors on a fait venir, on a entré le bateau dans le musée. On a enlevé l'eau et ensuite on a terminé la construction du musée autour du bateau.
L'histoire de la ville est quand même étroitement liée à celle de la mer qui l'entoure et à toutes les îles.
Dans la ville même, dans l'archipel, il y a 24 000 îles.
24 000.
Et dans le centre de Stockholm même, il y a 14 îles. Et puis on a encore de l'autre côté, dans le lac de Mälaren, parce que la ville est construite entre 2 eaux différentes. Et en fait, c'était pour pouvoir arrêter les ennemis avant d'entrer dans le lac qu'on a construit que Stockholm. On avait commencé avec une tour de défense vers la fin du XIIe siècle. Et puis la ville s'est développée autour de cette tour.
Birgitta, nous sommes venus sous le navire. Et en hauteur, donc, combien fait-il ce navire ?
De tout en bas jusqu'en haut des mâts, c'était 52 mètres.
52 mètres. Et alors, dans cette vitrine, il y a toute une réplique de l'immense chantier naval qui se trouvait sur une île près de Stockholm.
Oui, en fait, maintenant, c'est une partie du centre-ville. C'est une mi-île qu'on appelle aujourd'hui Blasieholmen, où on a, par exemple, le Musée national des Beaux-Arts et aussi le Grand Hôtel. C'était le chantier naval à l'époque. On a commandé plusieurs bateaux en même temps et le Vasa, c'était prévu d'être le plus grand et le plus beau. On lui a même donné le nom de la dynastie à l'époque qui était Vasa. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez le parcours de ski de fond qui s'appelle Vasaloppet dans le nord de la Suède. C'est un parcours qui avait fait le grand-père de Gustav Adolf. Et Gustav Adolf, c'était le roi qui a fait construire ce vaisseau et qui a plus tard participé dans la guerre de 30 ans.
Alors on va poursuivre peut-être le long de la coque, ce bateau.
Pour le Vasa, on a utilisé environ 1000 chênes pour la construction. Et on cultivait des chênes spéciaux pour la construction des navires à l'époque. C'était des étrangers, des Hollandais et des Allemands qui sont venus ici pour faire des sculptures en fait sur les bateaux, mais aussi sur les immeubles, sur les bâtiments, ce qui était très à la mode au XVIIe siècle. Alors par exemple, dans la vieille ville, autour des portes, il y a souvent des sculptures, par exemple des guerriers romains, et cela a été fait par les mêmes artistes. Ici sur le Vasa, on a des motifs de la Bible et de la mythologie grecque-romaine. Il y avait des sculptures qui voulaient glorifier le roi, par exemple. La figure, le galion, c'est un lion. Toutes les portes pour les canons aussi, où on sortait les canons, sont aussi couvertes par des têtes de lion, qui est normalement un symbole pour la puissance terrestre royale. Mais sur ce vaisseau-là, le galion, c'est un symbole pour le roi lui-même.
Cette statue de Bernadotte au cœur de la ville de Stockholm, que représente-t-elle pour une habitante de Stockholm comme vous, Bernadotte ?
Disons-moi, je pense toujours à sa femme Désirée Clary, qui venait de Marseille et qui était une fois la fiancée de Napoléon. parce qu'elle, elle est venue ici avec son mari, disons, à peu près au même temps que son mari et leur fils Oscar, mais elle n'aimait pas la Suède et elle est repartie pour la France. Elle est restée en France pendant 12 ans, ensuite elle est revenue ici. Elle a mené une vie assez malheureuse ici. Elle ne s'entendait pas très bien avec les Suédois. En fait, les Suédois étaient fâchés avec elle parce qu'elle était partie comme ça sans revenir. Et elle a survécu son mari avec beaucoup d'années et elle a un peu renversé les heures. Alors comme ça, elle dormait le jour et elle allait se promener en calèche la nuit. Et selon la légende, elle passait souvent devant cette statue et puis elle s'exclamait « Oh, comme il était beau !»
Et à aucun moment, donc, les habitants de Stockholm n'ont voulu enlever Bernadotte de son piédestal.
Non, non, au contraire, nous sommes fiers de lui. Il a fait beaucoup de bien pour la Suède et c'est un roi qui a été très bien aimé. En même temps, il y avait toujours un peu de distance parce qu'il n'a jamais appris le suédois. Alors comme ça, il y avait toujours quelqu'un qui traduisait pour lui. Et je crois que c'était en fait son fils Oscar qui était le premier roi de la dynastie Bernadotte qui était vraiment suédois parce qu'il avait seulement une dizaine d'années quand il est venu ici et il a été élevé comme un suédois.
Birgitta, on a pris la ligne de tram numéro 7. Cette ligne de tram numéro 7, elle a une histoire.
Oui, en fait, on avait des trams partout ici à Stockholm jusqu'en 1967. Cette année-là, on a décidé de changer la circulation et de commencer à rouler à droite, sur le côté droit, au lieu de la côté gauche. Et en même temps, on a enlevé toutes les trams. Et maintenant, il y a quelques années que des gens ont décidé d'ouvrir une petite ligne de nostalgie. Alors, on a remis les rails. Et puis, cette ligne, elle va de la centre-ville, la place de Norrmalmstorg, jusqu'à l'île de Djurgården. Et les gens qui travaillent sur les trams, ils le font parce qu'ils l'aiment bien. Ce sont les vrais enthousiastes. Alors, ils ne sont pas payés pour leur travail.
Alors, cette place, dont Norrmalmstorg, Torg veut dire place.
Oui.
Elle est importante pour la vie de Stockholm et pour une certaine unité de la ville et de la Baltique.
C'est parce que sur cette place, il y avait des démonstrations tous les mardis pour montrer qu'on voulait aider les pays baltes à obtenir la liberté quand ils voulaient se séparer de l'Union soviétique. Et maintenant, il y a aussi une sculpture sur cette place qui symbolise cette lutte de liberté. En fait, c'est une sculpture en trois parties qui symbolise donc les trois pays baltes.
Mais cette idée de la Baltique, cette idée balte, donc, est-ce que pour la Suède, elle est antérieure à l'idée européenne ?
Disons, on a eu beaucoup de liens avec les pays baltes dans l'histoire. Oui. Et il y a aussi beaucoup de gens des pays baltes qui sont venus ici pendant la guerre, par exemple.
Mais est-ce que l'idée donc de l'Europe, pour quelqu'un comme vous, vous devez vous construire votre histoire européenne ou c'est quelque chose qui vous paraît très naturel ?
Je pense que pour une bonne partie des Suédois, au moins, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on est la Suède, c'est dans le nord. On a senti qu'on avait beaucoup de choses en commun avec les Norvégiens et les Danois, mais que le reste de l'Europe, c'était un peu loin. Alors, on est en train de s'adapter maintenant et de s'habituer à cette idée.
Birgitta, cette rue, c'est une ruelle même, très très étroite.
Oui.
Il y a peut-être 1,50 m donc, qui sépare un mur de l'autre. On va laisser d'ailleurs passer trois personnes. Cette ruelle, quel nom porte-t-elle ?
Elle s'appelle Mårten Trotsigs gränd. Mårten Trotsig, c'était un commerçant allemand qui habitait justement ici et la ruelle, elle a reçu son nom.
L'influence allemande a été très importante ?
Oui, au Moyen-Âge, elle était très très importante. Il y avait beaucoup de commerçants qui venaient de l'Allemagne du Nord, qui habitaient dans la vieille ville, qui étaient très très qui avaient une grande influence. On exportait le fer, par exemple, par Stockholm, via Stockholm. Alors c'était un groupe très important et il y a beaucoup de noms de rues qui ont une relation avec l'Allemagne.
Mais des liens avec les villes hanséatiques ?
Oui, c'était des gens de la Ligue hanséatique. Mais Stockholm, ce n'était pas une ville hanséatique. On était indépendant, mais il y avait quand même une grande influence allemande.
Si on monte cette vingtaine de marches, donc on va se retrouver de l'autre côté dans une autre ruelle que vous aimez bien, je crois.
Oui, il y a une petite place là-haut.
Escalier très étroit.
Oui, là-haut c'est le plus étroit, c'est 90 cm.
On tombe donc dans la Prästgatan.
Oui.
Avec un cheval, un jardin d'enfants et une place. Petite placette, c'est cette placette que vous aimez bien ?
Oui. Là où nous sommes maintenant, il y avait un monastère au Moyen-Âge, monastère pour les dominicains. En fait, il y avait un pour les dominicains et un autre pour les franciscains à Stockholm. Mais après la réforme, au début du XVIe siècle, tous ces monastères ont été fermés et plus tard démolis.
Birgitta, on s'est assis sur l'un des bancs de ce petit square. C'est peut-être dans l'un de ces squares que René Descartes a pu venir un petit peu peut-être goûter un rayon de soleil de Stockholm, mais je pense que lorsqu'il est venu, son séjour a été plutôt sombre et plutôt difficile.
Oui, il avait été invité par la reine Christine, qui s'intéressait beaucoup à la science et à la philosophie, mais malheureusement, il faisait froid ici, et il a attrapé la pneumonie et il est mort à Stockholm. Alors on a tué votre Descartes, mais on n'a pas fait exprès.
Mais Voltaire a un lien aussi indirect avec la culture suédoise.
Oui, oui. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire de Suède et surtout à un roi qui s'appelait Charles XII. C'était un des grands guerriers. Il était roi de Suède jusqu'en 1718. Voltaire, il connaissait aussi la mère de Gustave III. Cette mère, elle s'appelait Louisa Ulrika. Elle était la sœur de Frédéric le Grand de la Prusse. Il avait fait la connaissance à Berlin et il s'écrivait des lettres régulièrement. Le roi Gustave III, celui qui s'intéressait tellement à la France, il a été assassiné pendant un bal masqué ici à Stockholm. C'était à l'Opéra et c'était en 1792. C'était un noble qui avait tiré sur lui. Il n'est pas mort tout de suite, mais 15 jours après. Et c'est de cet assassinat du roi de Suède que Verdi a eu son inspiration quand il a écrit l'Opéra, le bal masqué. On a juste changé les noms.
Mais ces références historiques de... Les gens de Stockholm les font volontiers ou alors c'est un petit aéropage d'historiens qui...
Maintenant, c'est très répandu parce qu'il y a un intérêt énorme à l'histoire en ce moment en Suède. Peut-être maintenant que nous sommes des membres de l'Union européenne, que nous avons besoin de nous sentir vraiment très suédois. Beaucoup de gens disent que c'est comme ça et je crois que c'est vrai parce que cet intérêt a beaucoup augmenté les dernières années. On veut vraiment sentir que nous sommes suédois, nous sommes fiers d'être suédois.
La fierté suédoise est à l'image de Greta Garbo dans La Reine Christine, de Max von Sydow en Spectre inquiétant du septième sceau, ou d'Auguste Strindberg recevant à son balcon l'hommage de 20 000 lecteurs porteurs de flambeaux. Conscient de ses privilèges et de ses talents, le Suédois aura-t-il vraiment le cœur à construire l'Europe? Dans un minuscule bungalow installé sur Kungstrandgarden, l'une des places favorites des habitants de Stockholm où l'on vient se montrer, écouter de la musique sur la scène centrale et prendre le soleil, je cherche une réponse improbable dans le grand livre souvenir de la cité. Cette machine à remonter le temps, simple mur d'images, est l'idée la plus modeste du lourd catalogue de Stockholm Capital. Car la ville s'offre pour une année un vrai feu d'artifice et ouvre ses frontières à Peterbrook, Greenaway, Lepage, Pina Bausch, Teshigawara et tant d'autres. Marathoniens épuisés par leur tâche de pilote ombudsman, Annika Levin et Philippe Legros gardent un œil lucide sur les inquiétudes de l'exemplaire société suédoise.
Souvent, donc, la Suède a été à la périphérie, vraiment à la périphérie. Et si on allait en Espagne ou en France et on voulait aller, on invitait un artiste pour Stockholm pour participer à une exposition, il choisissait toujours avant Berlin ou New York, mais ne voulait pas venir à Stockholm. Aujourd'hui, je trouve que la situation politique a changé beaucoup la carte de l'Europe. Et notre isolement autour de la mer Baltique n'est pas seulement un isolement, c'est une nouvelle place assez importante, très proche de la Russie, très proche des pays baltiques, de la Pologne, etc., et de l'Allemagne. Et nous avons fait dernièrement un projet avec les jeunes artistes qui sont autour de la mer Baltique, et où ils travaillent ensemble, où ils se rencontrent. C'est un nouveau, donc, on peut dire, par rapport à l'Europe, on veut avoir l'Europe, mais on veut aussi animer cette région. Donc, maintenant, on prend le bateau entre Saint-Pétersbourg et Stockholm. Il y a toujours eu un échange, puisque cet échange est historique, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les Suédois partaient pour Riga. C'était la petite côte d'Azur du Nord. Le Suédois n'est pas vraiment l'intellectuel. Moi, comme Français, je le considère plutôt comme l'ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est de résoudre un problème technique aussi rapidement possible, d'être très effectif. Il n'aime pas s'écouter. Il ne parle pas aussi souvent que le Français. Et il a horreur des conflits. Le but en Suède, quand on a une discussion, c'est ne pas dire le contraire, c'est de se mettre d'accord aussi rapidement que possible. Et ça, c'est un petit peu donc une autre. En France, on dit le contraire pour animer la conversation, pour animer le feu. En Suède, jamais, il faut se mettre d'accord.
C'est un art de vivre.
Oui, vraiment, c'est un art de vivre.
J'ai passé des petites périodes en France, et ce que j'admire énormément, c'est les émissions à la télévision et la radio, où les gens peuvent parler de n'importe quel sujet, des heures, mais animés, avec beaucoup de mots. Et c'est un spectacle, c'est fantastique.
C'est la fête.
Ça, oui, mais ça, on n'a pas en Suède. Mais on est dans une société qui est en train de beaucoup changer.
Mais pourtant,
aujourd'hui, à Stockholm, il y a presque 25% de la population qui ne sont pas nées en Suède. Et ça change aussi l'ambiance, la nourriture, le monde de vie, les communications entre les gens, la manière de parler, ça va nous beaucoup changer.
Alors, quelles sont les communautés qui, maintenant, commencent à s'intégrer? Là, ce matin, en circulant dans les rues, on voit par exemple un orchestre de Roumains qui joue dans la rue et qui se fait applaudir, mais en même temps, hop, ils repartent aussitôt. On voit passer des Sikhs, on voit passer des Aïrois, mais est-ce qu'ils sont maintenant dans le paysage de Stockholm, ou est-ce qu'ils ont du mal à s'intégrer à ce paysage?
À mon avis, donc, il y a un certain malaise. En premier lieu, donc, les gens, les immigrés ont du mal de s'insérer parce qu'ils ne trouvent pas de travail. On a une colonie iranienne qui est très grande, 90% sont chômeurs. Beaucoup de communautés musulmanes qui viennent d'Irak, d'Iran, des Kurdes, même Algériens, Marocains, donc. Une grande colonie qui vient de Kosovo, de la Yougoslavie, bien entendu, beaucoup de gens de Yougoslavie. Il y a quelques années, il y avait pas mal de Vietnamiens qui sont venus. Quoi encore ? Somalie, Érythrée, qui ont aussi beaucoup de... Parce qu'il y a aussi... Quand, comme Français, on sait... Nous, j'arrive en Stockholm, j'arrive en Suède, je suis le civilisé, je suis l'européen, je suis respecté. Mais si vous êtes turc, les Turcs sont une très grande colonie, vous n'êtes plus civilisé, vous n'êtes plus considéré comme une... Et là, il y a vraiment la couleur de peau où l'origine joue un très grand rôle.
Mais le racisme ordinaire existe donc à Stockholm, mais d'une façon un petit peu préoccupante.
Je trouve que c'est préoccupant, oui. Il y a un racisme certain. Du temps de Palme, il y avait le Suédois était vraiment le grand international. Il aimait tout le monde. Il était un petit peu la conscience du monde, vraiment. Et ces 5-10 dernières années, la Suède a changé énormément. Le modèle suédois a disparu. Et avec lui, le grand amoureux du monde. Et maintenant, des gens qui sont très près de leur propre intérêt, de leur propre argent, de leur propre maison, et qui n'ouvrent plus les fenêtres ou les portes comme on le faisait dans le passé.
Deuxième produit d'exportation de la Suède, c'est la musique aujourd'hui, surtout la musique populaire. Et ça montre qu'il y a une génération, deux générations maintenant, qui ont eu la possibilité de jouer des instruments classiques ou populaires, qui a vraiment manifesté leur connaissance. Ça, c'est quelque chose que je crois qui est très présent en Suède. La musique, les chœurs. Presque une grande partie de la population chante dans un chœur amateur.
Ça, vous-même, Mika, vous chantez ?
Plus maintenant. Je voulais bien, mais...
Vraiment, les chœurs, c'est un mouvement. Le mouvement de chœur en Suède, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a à peu près 2 millions de Suédois qui chantent chaque semaine. Mm-hmm. C'est...
À quel moment alors, donc ?
Ils se rencontrent.
C'est une habitude
tout à fait culturelle. Et c'est un petit peu donc la grande différence avec la France. Donc, on te dit en Suède, on ne va pas au café pour boire un coup, rencontrer des copains. On prend un cours de langue, on fait de l'anglais, ou on va au chœur, à la chorale, ou on fait de la céramique ou quelque chose. C'est là que l'on se rencontre. Et ça, c'est typique pour la Suède.
Ça, c'est aussi un mouvement de convivialité. Ça,
oui,
c'est envie de se retrouver.
Absolument. C'est peut-être la première chose, mais en même temps d'être utile. Ne pas seulement, on ne boit pas seulement un coup. Il faut faire quelque chose. On est un petit peu protestant, quoi. Mm-hmm. Alors, il faut faire quelque chose d'utile. C'est un petit peu comme ça.
Rafael Moneo, architecte espagnol, s'est vu confier Skeppsholmen, une des îles majeures de Stockholm, pour y bâtir les volumes du nouveau musée d'art moderne. Raffiné et discret, jouant sur le rouge de la brique, il s'est lové dans le paysage, dressant seulement quelques périscopes sur la Baltique. Si l'exposition inaugurale et ses audaces conceptuelles ont dérouté, l'ironie de Miro le catalan a offert le relais populaire attendu. Ragnar von Holden, commissaire au visage éclairé d'un large sourire, esthète volontiers persifleur, refuse la frilosité de ses compatriotes.
Vous avez un prénom viking ?
Oui, je suis donc moitié suédois, moitié allemand.
Est-ce que vous avez le sentiment que, donc, entrer dans l'Europe pour une ville comme Stockholm, c'est un pas en avant ou c'est une incertitude ?
Non, alors je crois que maintenant on comprend que, vous savez très bien, c'est toujours l'étranger qui connaît quelque chose qui s'appelle le modèle suédois. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire et je crois que la plupart des Suédois ne le savent pas non plus. Non, je crois qu'en principe, on est très pour l'Europe, beaucoup moins pour la monnaie. Hein. Par exemple, on nous avait promis que le prix devait baisser, mais évidemment, nous avons tant d'impôts que ça ne change rien. Hein. Nous sommes peut-être le peuple le plus taxé du monde. Hein. Et voilà une qualité de vedette où nous ne sommes pas trop fiers. Hein.
Mais cette idée de Stockholm, capitale de l'Europe, capitale culturelle de l'Europe...
Vous savez, cette idée, ça vient, à l'origine, ça vient, comme vous savez, de Mélina McCurry, n'est-ce pas ? Et les politiciens ont été extrêmement heureux d'obtenir ça, malgré le fait que nous n'avons pas une vie, une activité culturelle extrêmement évoluée. Et je ne trouve pas que le fait d'être aujourd'hui dedans a changé grand-chose.
Mais il y a un intérêt quand même de la population.
Oui, mais c'est l'intérêt qu'on a toujours eu. Je trouve que les différentes manifestations qu'on a faites sont assez superficielles et parfois un peu trop énigmatiques pour la grande masse. Si je regrette quelque chose aujourd'hui, c'est que la Suède est devenue beaucoup plus matérialiste, que l'État donne pour les institutions très peu d'argent. Évidemment, on est soutenu par l'État, mais ça ne suffit même pas pour le loyer. Hein. Je veux dire que si on veut acheter quelque chose, on a des fonds qui sont donc donnés par des bienfaiteurs et les autres.
Des sponsors ?
Oui, parfois, depuis quelques années, on a aussi des sponsors. Mais je veux dire qu'en principe, si on pense à ce qu'on a pour des achats, c'est grotesque. Je veux dire que j'ai l'impression que les initiatives qu'on a prises peuvent même parfois souligner ou accentuer l'hostilité ou la méfiance des gens envers des choses culturelles.
C'est l'âme du jardin, en fait. Mm-hmm. C'est l'endroit le ouais. plus apprécié, surtout quand les pommiers sont en fleurs. Ça. Il y en a encore quelques-uns qui fleurissent, mais ça se termine. Ça a commencé il y a à peu près 3 semaines. Alors, dès qu'il fait chaud, c'est rempli de monde, là, surtout le samedi, dimanche. C'est vraiment... Les gens s'allongent, se mettent une petite couverture, ils pique-niquent. Ils peuvent acheter au restaurant un petit panier avec deux pique-niques, et puis ils viennent pique-niquer là. Et c'est un endroit très, très prisé, très... bucolique, on pourrait dire. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est...
Antoine Berthelin, vous êtes jardinier
oui.
à ce Rosendal.
Rosendals Trädgård, le jardin de Rosendal.
Qui est un des lieux favoris des habitants de Stockholm.
C'est une promenade favorite, oui, qui est devenue populaire depuis peut-être 5-6 ans, mais qui draine de plus en plus de monde. C'est vraiment. Et cette année, il y a une exposition qui a lieu dans ce jardin. Tout un nouvel endroit qui n'existait pas, c'était sauvage avant, il n'y avait rien. Il y avait un manège avec des chevaux, et qui a été construite avec douzaine de jardins, des jardiniers et des artistes ont fait ensemble.
Mais ce jardin est situé dans une île qui est le domaine du roi.
Oui, c'est l'île, on appelle ça Yule Golden. C'est le jardin des animaux du roi. Enfin, c'est là qu'il allait chasser autrefois. Et c'est là aussi que Bernadotte avait une maison d'été. C'est le château qui est là-bas. C'est lui qui a fait construire cette maison-là.
Alors, ce domaine a été légué au peuple suédois et aux habitants de Stockholm.
Non, c'est toujours le domaine du roi, mais il est
à libre disposition.
C'est ça, il a été loué en fait à des jardiniers qui ont mis en route ce jardin. Mais sinon, l'île entière est louée à différentes associations. Et une grande partie est sauvage aussi, on entretient juste et on laisse les animaux. Il y a des chevreuils ici, il y a des lièvres, il y a toutes sortes d'animaux qui viennent. On est en pleine ville quand même, hein. On arrive en bus ici, c'est très impressionnant. La nature est très présente en pleine ville.
Lorsque vous étiez en France, vous connaissiez ce jardin de réputation?
Voilà, de réputation, parce que c'était un jardin intéressant, assez unique, complètement ouvert au public. Les gens viennent librement, il n'y a pas de barrière fermée, Mais cette année, il y a un virement grâce à l'exposition qui a lieu ici, avec tous ces, on appelle ça des jardins d'idées, des idées de jardin, on pourrait dire aussi. Le potager est aussi un endroit très apprécié dans le jardin, parce que bon, les gens qui habitent en ville n'ont plus tellement de notions ils ont des vieux souvenirs ou des choses comme ça de ce que c'est un rang de pommes de terre, un rang d'oignons ou de carottes, et ça leur fait très plaisir de retrouver ça ici, quoi. Et il est aussi libre d'accès, hein, le potager ici.
Mais c'était dans la tradition donc des habitants de Stockholm, cette idée de jardin potager ou de jardin ouvrier au départ.
Oui, il y a une grande tradition de jardin ouvrier à Stockholm. Depuis très longtemps, des jardins avec une petite maison dans laquelle on peut habiter l'été. Souvent, c'est tout petit, il y a une cuisine, une chambre peut-être, mais et très bas le toit est très bas, c'est tout petit. Mais c'est très colonie lotte, ils appellent ça. Et les ouvriers avaient ça et ont encore ça. Il y a de moins en moins d'ouvriers, il y a toutes sortes de gens qui ont ces jardins-là. Mais les gens qui travaillent dans les bureaux, qui ont absolument besoin de gratter un peu la terre pour aller bien.
Et la qualité du Suédois jardinier, vous avez pu l'analyser?
Les Suédois aiment la nature. Ils adorent la nature, ils la respectent énormément. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie de venir ici aussi. C'est très agréable que ça soit respecté et qu'elle est ouverte à tous, la nature. Il y a un droit en Suède d'aller partout, même dans les endroits privés. Il y a juste autour des maisons, on n'a pas le droit d'aller, bien sûr, mais même les forêts privées, dans les champs, on a le droit de cueillir les champignons, on a le droit de ramasser les fleurs. Tout ce qui pousse de façon sauvage, c'est inscrit dans la loi que c'est pour le peuple. C'est la terre qui le porte pour le peuple. Ça donne un intérêt pour la nature qui me plaît.
Ça, vous ne le trouviez plus tellement en France?
Pas du tout. En France, on a une telle notion de la propriété privée que c'est assez triste. C'est tout. La première chose que j'ai vue, je suis venu en Suède il y a 15 ans, la première fois, j'étais perdu en tant que Français parce que bon, j'habitais dans une maison et il n'y avait pas de barrière autour de la maison. Je ne savais pas si j'étais dans le jardin du voisin ou chez moi. Ah, ça, c'était vraiment étonnant, quoi. Mais ça m'a plu beaucoup parce que c'est assez triste, finalement. On peut s'isoler d'une façon différente. On n'est pas obligé de mettre une barrière de cyprès ou de touya. C'est construire une maison et un jardin autour, mais on ne commence pas par mettre une clôture. C'est pas du tout habituel, ça.
Parmi tous les jardins d'idées donc, qui ont été construits, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement touché, dans lequel vous retrouvez votre sensibilité?
En fait... Oui, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est ce petit jardin qui est derrière nous, là. C'est un jardin qui représenterait un peu le jardin ouvrier, justement. Le nom en suédois, c'est Teppan, ça veut dire le petit jardin familial. Alors, il y a une petite construction en bois, il y a un petit poulailler, un potager qui n'est pas grand, mais quelques jolis fruitiers, un peu de bois qu'on va fendre. Enfin, c'est un endroit très convivial. Celui-là, il me plaît. Sinon, il y a un autre jardin d'idées qui a été fait par des étudiants... des architectes paysagistes qui ont fait un jardin très intéressant avec un labyrinthe sous des saules plantés très très serrés et avec au milieu un petit puits où il y a un rire qui sort quand on arrive là. Alors là, c'est une ambiance très feutrée, très agréable.
C'est le rire matinal du jardinier?
Ah, je sais pas, non, c'est une ambiance plus de la forêt là. C'est un jardin qui est assez sympathique. Oui. On peut aller voir les jardins peut-être.
des lilas.
Des lilas, ils appellent ça un berceau, le berceau en suédois. C'est un endroit fermé, entouré de lilas qui sentent bon. Et puis on se met là et on lit tranquillement. Là, il y a une chaise qui est là pour ça. Alors ça sent bon.
Le lilas tout autour.
Oui, le lilas, c'est une des fleurs favorites des Suédois parce que ça représente le printemps. Mm-hmm. Donc la neige, c'est fini. Enfin, on est sûr qu'il va faire chaud parce que l'été ne dure pas très longtemps. Et c'est un moment très sensible. On avait des lilas sous la serre et les gens venaient comme des petits papillons sentir parce qu'ils étaient fleuris un mois plus tôt. Ouais. Ah, c'était trop drôle. Tout le monde arrivait et venait renifler les lilas.
Alors Antoine, on rentre dans le jardin, dans votre jardin préféré.
Là, le jardin familial. C'est un jardin que j'aime beaucoup. Le jardin que beaucoup de familles aimeraient bien avoir. Mm-hmm. Un endroit où on vient le samedi, dimanche, gratter la terre. Retrouver un peu ses racines de paysan, peut-être. Là, il y a le potager. Oui. Petit potager surélevé pour que la chaleur... On a besoin de la chaleur au printemps, ici. Alors, on fait tout pour que les légumes poussent bien. Donc, en faisant une petite butte, comme ça, on arrive à gagner quelques degrés. Il y a de tout. Il y a des oignons, des carottes, ou un peu de haricots qui commencent à sortir, des poireaux. Alors là, cette partie du jardin a été conçue et réalisée avec des matériaux qui viennent d'une île qui s'appelle Gotland. C'est une île que les Suédois aiment beaucoup, énormément. Tout le monde va à Gotland. C'est un peu comme quand on va en Bretagne. Enfin, moi, je viens de par là. Et donc, il y a beaucoup de calcaire sur cette île. Alors, le sol qui est là, ce sont des pierres calcaires qui ont été un peu gravées, certaines sont un peu sculptées. Le bois, c'est du bois de pin de Gotland qui résiste très bien aux intempéries parce qu'il pousse doucement là-bas, il est très serré. La petite serre en bois et en verre a été créée aussi par un artisan de Gotland. Voilà, donc la petite serre pour faire pousser ses tomates un peu plus tôt, avoir un peu de basilic. C'est très exotique le basilic en Suède. Il y a un petit figuier, il y a une petite fontaine qui coule.
Mais en quelques semaines, la nature explose ici. Donc.
Oui, c'est très impressionnant. Je ne reconnais pas le rythme des légumes. Il pousse deux fois plus vite. Il ne fait pas nuit. Il fait presque jamais nuit là, en ce moment. Il y a 2 heures, 3 heures où le soleil se couche un peu, mais le jour est encore là. Et les légumes ont besoin de la lumière pour pousser. Et ils poussent deux fois plus vite. Ils ont 20 heures à peu près de lumière du soleil. C'est impressionnant. La période est courte, mais très intensive.
Communautaire qui a l'air de s'accomplir ici est un peu à l'encontre de la solitude du jardinier.
Oui, on m'a raconté les conflits, mais des discussions très longues entre le jardinier ou les jardiniers. Quelquefois, deux jardiniers travaillaient ensemble avec souvent plusieurs artistes. Ils ont dû faire quelque chose ensemble parce que ça suffit pas de faire son jardin et de poser des sculptures. C'est pas harmonieux. Donc, il a fallu trouver quel meuble on met à tel endroit. Qu'est-ce qu'on veut dans ce jardin, qu'est-ce qu'on veut exprimer. Et ça, c'est difficile. Le jardinier est seul, on dit que le jardinier est un peu comme un chat. Il cherche le soleil, il prend une bonne place dans son jardin, mais il va pas suivre les autres comme ça. Et il n'est pas du tout comme un petit chien qui suit son maître. C'est un chat, le jardinier. Et donc l'artiste est sans doute un peu comme ça aussi. Et ils ont dû se rencontrer. C'est un résultat vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc j'étais entraîné dans cette vague de travail là, et ça avait l'air complètement désorganisé jusqu'au jour même de l'inauguration où on a vraiment tout rangé, enlevé toutes les caisses, tous les cajots, tout. Et là, tout d'un coup, le jardin est apparu magnifique, vraiment magnifique. Et beaucoup de gens l'avaient vu avant l'exposition, beaucoup de gens l'ont vu pendant que l'exposition se construisait et se disaient « qu'est-ce que c'est ce travail ?» On n'y arrivera jamais, c'est le chaos. Le roi même était venu à l'automne et il a dit dans son discours, Je me demandais vraiment qu'est-ce qui pouvait se faire ici, mais maintenant je suis vraiment émerveillé, quoi. Il était vraiment ému de voir ça, quoi. C'était très
sur
sympathique.
Sur son domaine, sur le domaine.
Oui, ici. Bon, le roi de Suède, c'est quelqu'un qui est très près du peuple, en fait. Hein. Il est très démocratique. Ça n'a rien à voir avec l'aristocratie qu'on a eue chez nous, que l'on a encore. Et c'est intéressant aussi, ça. Son discours est très populaire, très antiraciste. J'ai eu d'autres occasions de l'entendre. Il appuie beaucoup sur le fait qu'on doit intégrer les nouveaux Suédois qui viennent. Et c'est vraiment très intéressant, ça, cette ouverture d'esprit.
Et ça, dans la vie quotidienne, est-ce que vous sentez qu'il y a parfois des réticences, justement?
Pas pour moi, c'est comme dans tous les pays, dès qu'on a une couleur de peau différente, on vous regarde un peu différemment. Bon, moi, je peux ressembler, j'ai des cheveux roux, je peux ressembler à un Suédois, donc j'ai pas... Il n'y a que quand je parle, on entend bien que je ne suis pas Suédois. Mais bon, il y a du racisme dans beaucoup de pays, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont contre le racisme, bon, qui sont en grande majorité, mais qui travaillent contre ça aussi, quoi.
Vous trouvez une autre tolérance ici, en Suède?
Oui, on est très tolérant, oui, il n'y a pas de problème. Les voisins, j'habite un appartement, tous les gens de l'immeuble, quand on a déménagé, sont venus nous dire bienvenue dans l'immeuble. C'était très agréable, ça. Je connais pas trop la vie citadine, hein. J'habite plutôt à la campagne, mais ici j'étais très surpris de ça. J'étais pas accueilli comme ça dans le petit village des Pyrénées où j'étais, non. Ça a mis beaucoup plus de temps, ça s'est bien passé, mais c'est un travail de longue haleine. Ici, j'étais d'abord bienvenu. D'abord, on dit bienvenue. C'est la première chose. On vous accueille en vous disant bienvenue. Et après, on essaye de vous rencontrer. Bon, les gens du Nord ont une attitude très calme, très posée. On peut les croire froids, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste, bon, ils ne s'expriment pas avec des gestes. Ils ne bougent pas tellement leur visage. On ne voit pas tellement l'expression de joie ou de tristesse. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi.
À 80 ans, Ingmar Bergman, l'ermite de Fårö, s'est transformé en statue du commandeur. Sa dernière mise en scène au théâtre, un film récent, ses livres mémoires lui ont assuré cette autorité du sage qu'on lui refusait jusqu'alors. Au même titre qu'Olof Palme, le politique, ou Alfred Nobel, le chimiste, il est devenu la référence et participe de la conscience suédoise. Je parcours son ancien quartier, d'Östermalm, le passy de Stockholm, aux immeubles bourgeois, néo-renaissance, chargés de secrets. Je découvre l'église Sainte-Catherine, où officiait son père et pasteur. Tous les dimanches, à 11h, les mêmes rituels. Je remonte l'allée ombragée menant au porche. Des dames patronesses installent déjà leur lot de pâtisseries et de broderies sur des tables nappées. Les chants s'élèvent, le pasteur monte en chaire, des bourses greffées à des perches circulent dans les travées pour recueillir les offrandes. Stockholm sait aussi se figer dans le temps, se repentir et distiller ses névroses.
De voir presque en peur pour ce qui vient de l'étranger. Une sorte peut-être aussi de timidité.
Oleg Granat.
Qui, je crois, est fondée dans l'histoire d'un pays qui est assez large et en petite population. C'est une très longue distance d'un maison à un autre. La vie de village n'est pas la même réalité en Suède comme elle est en France ou en Allemagne ou en Italie. C'est très différent comme culture. Et je crois que c'est par là qu'il faut chercher les raisons les plus profondes pour l'hésitation vis-à-vis la communauté.
Mais cette ville, elle a son autonomie autour de la culture, autour de la politique, autour de la vie sociale.
Ce que vous voyez de la population suédoise vis-à-vis l'Europe, il y a aussi à l'intérieur du pays, avec la population du pays vis-à-vis Stockholm, qui est considérée une autre monde, presque.
Mais il y a une réelle distance, où il y a une distance qui s'accentue, ou au contraire qui tend à rapprocher les deux extrêmes, comme ça, la campagne et la capitale.
Il y a une tension qui est assez forte.
Quels sont les reproches que l'on fait à Stockholm ? Ceux de la centralisation ?
Centralisation, que tous les frics qu'ils payent, eux, font à une culture pour les gens qui habitent Stockholm, qui ont l'occasion de visiter Stockholm. Il y a à la fois il y a une grande hostilité même vis-à-vis la richesse, l'abondance du culture à Stockholm. Si nous parlons de la culture, mais aussi des gens de Stockholm, ils achètent les maisons dans la campagne, ils font une sorte d'invasion du reste du pays, détruisant la culture campagnard, original. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes comme ça. Sur une autre échelle, la peur reste le même, que maintenant c'est pas Stockholm qui est la menace, c'est l'Europe qui est en train de niveler. Moi j'ai toujours lutté, soit comme critique, soit comme directeur du musée, parce que je trouve qu'on ne peut pas garder ce qui est bon en se faire aveugle pour ce qui vient de l'étranger ou qui est de notre qualité. Il faut savoir, il faut connaître, pour aussi savoir qu'est-ce qu'il y a qu'il faut défendre, qui est bien chez nous.
Si la Suède endosse son uniforme européen, elle se forge une autre image et rêve d'autres ailleurs. Cette crainte des habitants de Stockholm à l'égard des communautés accueillies, je la sens insidieuse, parfois virulente. D'autres la refusent et militent ardemment pour donner des couleurs à une vie nordique jugée trop terne. Robert Erhall, retraité auvergnat, rencontré sous la halle d'Ostermalm. Taïeb, le Marocain et grand maître de cérémonie du thé. Gmani Lamy, mannequin amoureuse du Kerala, ont trouvé pour Stockholm de nouveaux repères. Depuis 5 ans, ils se retrouvent à l'approche de la Saint-Jean, sur l'esplanade du musée d'histoire, pour le Rue Orient, la Mostra des cultures orientales. En se mobilisant pour Aster Aweke, la diva éthiopienne, ou pour Belemou Messaoud, le père du rail, en vibrant au tuba roumain de la fanfare Siokarla, Stockholm tente de chasser ses démons et s'interroge. Son histoire n'était-elle pas trop lisse, trop rassurante?
Thank you.
Stockholm, une balise pour l'Europe. Un reportage de Patrick Casals. Au mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Després, réalisation Marie Groux. Participez à cette émission notamment Ragnar von Holden, commissaire au Musée d'Art Moderne. Annika Levin et Philippe Legros, responsable artistique de Stockholm 98. Birgitta Ekblom, enseignante. Antoine Berthelin, jardinier au Rosendahl Stragart. Eulé Granat, directeur des musées nationaux.
Ce reportage a été diffusé dans l'émission L'usage du monde de Marie-Hélène Freissé le 4 octobre 1998 sur France Culture. Vous pourrez réécouter ce reportage en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture.
Oh Gud, vad han är skön. Oh Gud, jag faller i trans och i djupaste bön. För hans sinne är som solen, hans ögon den djupaste brunn. Och hans mun talar så vackert. Jag är förförd och förundrad, han gör mig stum. Han kom, han såg mig, såg in i min själ. Han kom, han såg vad jag ville. Och det är allt för väl, för hans sinne är som solen, hans ögon den djupaste brunn. Och hans mun talar så vackert. Jag är förförd och förundrad, han gör mig stum. Han gör mig stum. Hans ögon den djupaste brunn och hans mun.